Bonsoir tout le monde, bienvenue à Pop en stock. En fait, j'ai juste un bonsoir, mais parce que ça, toi, on enregistre mercredi à 5h le soir, mais vous êtes vraiment que vous nous écoutez en podcast, donc bonjour, bon matin, bon après-midi. Tous ces mots-là sont appropriés. Mais en fait, ce soir, on va vraiment dire bonsoir, parce que ce soir, on parle des late-night shows, donc des talk-shows de fin de soirée, surtout américains, parce que c'est eux qui ont pas mal inventé le genre puis qui ont décidé de faire une espèce de moule de ce genre d'émission-là. Et on va en parler avec trois invités, mais tout d'abord, je me présente, je m'appelle Hélène Lorrain. Tout d'abord, Julie Dufort, qui est doctorante en sciences politiques et enseignante à l'École de l'humour. Bonsoir, Julie.
Bonsoir, bonjour.
Bonjour. Bonsoir tout le monde.
Ça va bien?
Julie, un petit quiz. C'est qui ton animateur ou ton animatrice de talk show, de late night shows préférés?
Oh, grande question. Mm-hmm. Est-ce que je pourrais en répondre plusieurs
bien
pour
sûr.
Différentes raisons? Je vous un mon amour, là, je vais le dire ce soir en onde, pour Jimmy Fallon. Je suis amoureuse de Jimmy Fallon. Malheureusement, il est marié.
Oui.
Je pense qu'il y a des enfants aussi. Donc, sinon, je vais me rabattre sur... non, mais j'aime beaucoup Jon Stewart puis Stephen Colbert. Je pense que c'est eux qui ont marqué quand même les late shows. Puis c'est avec eux un peu que j'ai connu ce type d'émission-là. Donc, je dirais certainement ces deux animateurs.
Excellent. On a Christopher Chancy, qui est développeur de jeux vidéo pour Manavoid Entertainment. Christopher, je te pose la même question. Qui est ton animateur ou animatrice de Late Night Show préféré?
C'est une excellente question. Moi aussi, je pense que j'irais pour Jimmy Fallon. Je vais en parler plus tard, mais c'est essentiellement parce que il y a beaucoup de jeux dans son émission. Fait qu'en tant que game designer, c'est super intéressant de décortiquer toujours ce qu'il fait. Mais d'une dimension politique, je dirais que j'écoute beaucoup de John Oliver aussi.
Mm-hmm.
C'est là que je prends vraiment mes nouvelles de la semaine.
Sur un sujet, mais qui est très bien développé.
Exact.
Et finalement, Marie-Hélène Etu, qui fait son bac en journalisme à l'UQAM.
Ouais.
Bonsoir, Marie-Hélène.
Allô.
Et qui est ton animateur ou ton animatrice préférée?
Ben, je vais pas être originale, puis je vais dire aussi John Oliver, Jon Stewart, Stephen Colbert, c'est pas mal mes préférés, là.
Ah, j'avoue, là, je suis plus ou moins secrètement amoureuse de John Oliver, moi.
Ah, moi,
mais son accent britannique... En partant, il pourrait comme dire n'importe quoi, je m'en fous.
Ben, ça lui donne une crédibilité, puis je pense qu'il le sait, là. Il le dit souvent, d'ailleurs.
Oui,
là,
c'est vrai.
L'accent britannique. Mais j'ai vraiment développé un espèce de fanatisme pour lui récemment.
Ben, il est vraiment excellent, là, en tout cas. On va en parler, j'imagine, ce soir aussi.
Oui, c'est le sujet de ma chronique.
Oui. Mais on va y revenir, donc. Mais je vais faire juste, non pas un historique, mais comme je fais d'habitude, mais plutôt une espèce de démêlage, la constellation des shows de fin de soirée aux États-Unis. Parce qu'au début, je pensais que c'était bien simple, mais finalement, je me suis rendu compte que non. Et tous les animateurs ont tout animé, on dirait, et ils se passent le micro. La première version, la première émission, c'est The Tonight Show, qu'on connaît encore, qui joue encore. Ça a commencé en 1954 sur les ondes de NBC. Le premier animateur, c'était Steve Allen, qui a encore comme une réputation. On en parle souvent des fois encore, particulièrement pour des vieilles performances, le Tonight Show with Steve Allen. Puis ça vient de ça et... Il a vraiment donné l'espèce de gabarit aux late night shows avec le monologue d'ouverture, les entrevues avec les célébrités, la participation de l'auditoire, des bouts de comédie, donc des bouts de jeu, puis des performances musicales. Donc c'est vraiment un modèle qui a assez peu changé, quoique ça dépend aussi des animateurs et du propos du late night show. Ensuite, le Tonight Show, il y a eu Jack Parr, que je connais pas, et ensuite, de 1962 à 1992, Johnny Carson, le roi des late night shows. Le King, absolument. Moi, je me souviens que quand il a pris sa retraite en 92, la une du TV Hebdo de cette semaine-là, c'est Johnny Carson qui prenait sa retraite. Puis pour qu'un animateur américain fasse la une du TV Hebdo, c'était vraiment un big deal. C'est la première fois que j'entendais parler, d'ailleurs, d'un talk show de fin de soirée. Je me demandais comment ça se fait que les gens restaient réveillés aussi longtemps pour regarder ça, aussi tard le soir. Ensuite, le Tonight Show, Jay Leno. De 92 à 2014, quoi qu'il y ait eu un petit conflit là avec Conan O'Brien en 2009-2010. Et depuis 2014, c'est Jimmy Fallon, dont on va parler beaucoup ce soir, un alumni, un élève de Saturday Night Live à l'origine. Donc, à NBC, toujours, il y a le Late Night with ta-ta-ta. Donc, il y a eu le Late Night avec David Letterman de 82 à 93. C'est comme ça qu'il a commencé sa carrière de Late Night Show. Conan est arrivé ensuite de 93 à 2009, ce qui fait quand même une assez bonne résidence, on peut dire. Jimmy Fallon de 2009 à 2014, qui est ensuite allé au Tonight Show. Et depuis 2014, c'est Seth Meyers. Le Late Show, qui lui à CBS, qui dure depuis 1993. Avant ça, c'est le Arsenio Hall Show. Donc, en fait, il y avait tout le temps eu des formats de late night show, même quand ils n'ont pas l'espèce de late show, late tata, tonight show with. Il y a quand même des formules comme ça. Letterman a eu le late show de 93 à 2015. Donc, il est passé de NBC à CBS. Ça a été, j'imagine, à l'époque, une grosse affaire, mais je dois avouer que je m'en souviens plus. Et depuis 2015, c'est Stephen Colbert, dont on a déjà parlé. À ABC, donc l'autre qu'on on a NBC, CBS, ABC, c'est Jimmy Kimmel Live depuis 2003, dis-je, qui n'est pas enregistré live, j'ai appris en faisant les recherches. Fausse représentation. Et il y a plein d'autres late night shows à d'autres postes, le Daily Show avec Jon Stewart à l'origine et maintenant Noah Trevor. Le Last Week Tonight, qui est une fois par semaine sur HBO avec John Oliver. Du côté des femmes, il y a eu pendant longtemps Chelsea Handler avec Chelsea Lately. Maintenant, elle a juste un late night show, mais à Netflix, donc on peut le regarder n'importe quand, qui s'appelle juste Chelsea. Et Samantha Bee, qui elle aussi provient du Daily Show, au même titre que John Oliver, a son late night show qui s'appelle Full Frontal with Samantha Bee. D'ailleurs, j'étais un peu outrée qu'on n'ait jamais demandé, à ce qui paraît, à Samantha Bee de remplacer Jon Stewart, alors que elle-même fait un très bon boulot, même meilleur boulot que Noah Trevor, selon plusieurs. Et un autre important, Real Time with Bill Maher, depuis 2003 à HBO. Et il y en a plein d'autres, là. Ça, c'est juste comme les plus importants auxquels j'ai pensé pendant que je faisais ma recherche. Marie-Hélène, tu veux nous parler de la manière dont on s'informe beaucoup à travers les petits bouts de late night show, finalement.
Oui, ben en fait, je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez reconnu, là. Les jeunes vont beaucoup aller s'informer avec ça parce qu'il y a, une certaine pédagogie dans ça, de rire de l'actualité et après ça, de pouvoir l'analyser avec un certain recul. Mais moi, ce qui m'a le plus intéressé, en fait, c'est les segments de John Oliver à propos du journalisme. Il y en a fait un, c'est une vingtaine de minutes. Et aussi, un autre segment à propos du native advertising qui cause un peu un émoi dans la communauté journalistique, je pense.
Du contenu natif qu'on dit dans...
Oui, du contenu natif qui est on sait pas trop sur quel pied danser, en fait, parce que le contenu natif, c'est déguiser la publicité avec des vrais reportages, dans le fond. C'est comme si une compagnie de voitures payait un journaliste pour écrire un article sur les plus beaux endroits touristiques où on peut seulement se rendre avec cette voiture-là. Donc, mettons un Jeep, tu sais. Tu peux seulement te rendre quelque part avec ce Jeep-là. Ben, il va valoriser les endroits où tu peux seulement te rendre avec ça. Et ça va, je sais pas, créer une espèce de raisonnement pernicieux à ce niveau-là, sensibiliser les esprits à ça. Et ce que ça fait, en fait, c'est que ça fait perdre la crédibilité au journaliste qui va mettre son nom sur un article comme ça.
Mais en fait, qu'est-ce qui est controversé, c'est que le contenu natif, souvent, il n'est pas révélé comme étant contenu natif. Il y a comme un conflit au niveau de...
Il est
qui
camouflé.
A payé, c'est ça, c'est comme l'origine de l'article, c'est-à-dire celui qui paye ou la compagnie qui paye pour l'article n'est pas révélé, donc c'est pour ça que ça...
Oui, il va toujours y avoir un espèce de petit signe article commandé par, sponsorisé par, mais ça va être tellement subtil qu'on va pas le remarquer. Puis c'est il y a un exemple que justement John Oliver reprend dans son segment sur le native advertising et que moi j'ai vu dans mes cours. C'est quand le New York Times a fait un article sur les femmes dans les prisons américaines, qui était un excellent article journalistique. Il y avait un très bon reportage dans le fond, mais qui avait été commandité par l'émission de Netflix Orange is the New Black.
Okay.
Fait qu'il y a clairement un conflit à ce moment-là qui est pas tellement évident pour la personne qui va lire l'article et qui va pas voir les petits écrits en haut de la page. Et en fait, bon, John Oliver, il fait le Last Week Tonight with John Oliver. Fait qu'il fait un retour sur l'actualité de la semaine et il va utiliser la satire pour vulgariser vraiment. Il le fait avec une pédagogie vraiment extraordinaire. Il y a des choses... Il s'attaque à tout, là, dans le fond, là. La campagne de Trump, en ce moment, c'est très d'actualité, oui. Mais aussi,
Il a pris du temps avant de s'embarquer, d'ailleurs, dans la campagne de Trump. Il était vraiment très... comme ça n'a pas d'importance.
Oui.
Il va comme...
C'était une blague pendant longtemps jusqu'à ce que ça soit plus une blague. Il prend très ça au sérieux.
Mais je pense qu'il voulait pas y croire. Hein.
Ouais.
Mais aussi, il est allé en Russie rencontrer Edward Snowden. Il a fait une entrevue avec lui, ce qui est quelque chose... C'est du jamais vu jusqu'à présent.
Ouais.
Et pour parler de la surveillance que la NSA peut faire sur les citoyens américains, il a utilisé le concept du dick pic.
Oui,
qui est une information du data qui se qui se transporte partout à travers le monde. Oui, parce que les gens, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas c'est qui Edward Snowden, ou qui vont faire un amalgame, l'associer à Julian Assange et WikiLeaks, qui vont penser qu'il a vendu des informations au lieu de juste les données, révéler, parce que pour lui, c'était une question d'intérêt public. Aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est que les gens sont soudainement beaucoup plus concernés, se sentent beaucoup plus concernés, en fait, quand on leur parle de leur nudité sur Internet. Les réseaux. Puis si la NSC a accès à ça. Donc, c'est ça. Ça, c'est extrêmement intéressant. Il utilise la satire pour vulgariser. Il le fait dans pas mal tous ses segments. Il va parler pendant une vingtaine de minutes et après ça, présenter un vidéo qui va, justement, en poussant les choses à l'extrême, faire réaliser un peu les dangers de telle ou telle situation. Il l'a fait avec le journalisme à propos du virage médiatique et du rebranding des journaux comme Tribune, qui est devenu Trunk, une multiplateforme de contenu Internet, dans le fond, là, qui va plus nécessairement vouloir transmettre de l'information, mais plutôt
créer du contenu, tout simplement.
Oui, au lieu de vouloir adresser ce que l'intérêt public
faire a un besoin job de.
Oui, c'est ça. Oui, merci. En fait, c'est ça. C'est l'avènement du numérique a causé des problèmes dans les journaux papier parce que les revenus publicitaires ont baissé et c'est la question qui soulève justement à la fin, c'est il faut payer dans le fond pour l'information, ce qu'on ne fait pas en ce moment avec l'Internet, parce que pour avoir du bon journalisme, du journalisme d'enquête puis des choses de même, c'est des trucs qui coûtent quand même assez cher. Fait que s'il y a pas d'argent qui est mis là-dedans, mais on en a pas, on se ramasse avec des plateformes de contenu multimédia et tout ça qui ressassent constamment la même information. Donc la question qu'il pose, c'est est-ce qu'avec la publicité, est-ce qu'il va falloir justement des publicités natives qui sont la dernière façon un peu pour la publicité de s'insérer dans le contenu journalistique, ou sinon ce serait il le dit pas vraiment, mais des subventions gouvernementales, mais là, à partir de ce moment-là, on perd le mur étanche entre l'État et la presse indépendante, ou sinon les médias moguls, et ça, il l'adresse très clairement dans son
espèce de éditorial, oui.
Quand il présente des vidéos de justement un média mogul qui avait acheté le Oregonian et d'autres et qui s'adresse à ses journalistes et qui carrément les invective, c'est pas très très
mais invective poli. Aussi à mon souvenir, il invective aussi les lecteurs, il traite les lecteurs de
oui il, ben de ils veulent des bon, puppies, tu sais, comme il dit, il faut qu'on fasse du contenu que les lecteurs vont vouloir lire, fait que des puppies. Puis là, il y a une journaliste qui lui
chiens.
Oui. Oui, des petits chiens, pardon. Il y a une journaliste qui lui dit, mais en même temps, il faut qu'on parle de la guerre en Irak. Et ce monsieur-là va répondre, quand on aura assez d'argent pour parler de la guerre en Irak, on le fera. Mais en attendant, on va parler des petits chiens. Et vous êtes qui, vous, pour dire que les lecteurs ne devraient pas vouloir regarder les petits chiens?
OK, oui. Okay.
Fait qu'il y a un espèce de...
J'ai plus retenu...
le fuck you à la fin.
Oui, il y a ça, mais d'avoir pris les lecteurs pour des cons. Que prendre les journalistes pour des êtres arrogants, mais ça, c'est une question.
Ben,
c'est une question.
Ça va tout ensemble, je pense, quand même. on se demande qui est vraiment arrogant, là. Puis avec le native advertising qui remet la crédibilité des journalistes en jeu, le vidéo à la fin qu'il va utiliser pour présenter ça, c'est qu'il dit si les advertisers, c'est juste le terme en anglais, je suis désolée.
Les publicitaires
s'invitent dans l'information, il faudrait aussi que l'information puisse s'inviter dans les publicités. Et il présente un vidéo dans lequel un boxeur arrête son entraînement pour boire une canette de coke et après se met à nous parler d'une situation critique dans le monde. Là, en ce moment, je pense que c'était le Zika dans cet extrait-là. Donc, c'est ça, ça présente avec la satire. Ça vulgarise et je pense que ça informe d'une façon qu'on n'a pas nécessairement dans les médias en ce moment-là.
Mm-hmm. Et je trouve ça vraiment intéressant de constater à quel point les éditoriaux de John Oliver peuvent être viraux, là. Puis oui. Non seulement John Oliver, mais aussi des numéros du Daily Show avant et après John Stewart. Aux conventions républicaines récentes, ils ont les correspondants du Daily Show qui vont interroger des fans de Trump, donc, et puis qui essaie de démonter, pas seulement de prouver qu'ils sont des wabos, mais de vraiment de dire, mais ta logique est vraiment fallacieuse. Fait que, mettons, c'était comme, étant donné que Trump dit « Make America great again », c'est quand la dernière fois que l'Amérique était excellente? Puis les chansons comme des années 60, oh oui, c'est parce que ça super la ségrégation. Puis là, ils sont comme... ils sont un peu comme pognés. Mais ça, ça a été super viral. Là, ça a vraiment bien fonctionné. Fait que,
puis John Oliver a commencé comme ça aussi.
Oui,
il était un correspondant au Royaume-Uni là, du Daily Show, puis après ça, il est venu aux États-Unis. Puis en fait, c'est comme ça qu'il a rencontré sa femme, je pense.
Là, je me rappelle plus des détails, mais des détails, j'aime ça dire détails. Oui, il était à une convention, puis son épouse qui
républicaine,
était
républicaine, elle est une ancienne, une vétéran, était médecin dans l'armée. Son groupe à elle qui manifestait ont caché l'équipe de John Oliver des gardes de sécurité, je pense. Puis c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés.
Et voilà. Donc, l'amour.
C'est encore
autant des talk shows.
Mais sous-jacent à tout ça, il y a quand même le problème de comment est-ce qu'on est capable de financer donc le journalisme en ligne.
Oui, puis, oui, tout à fait, oui.
Puis je pense qu'il y a un des gros problèmes en ce moment aussi, c'est que dans le journal papier, tu avais toujours des publicités qui étaient payées pour avoir un espace dans le journal papier. Tout le monde lisait le journal, voyait la pub, mais savait qu'elle était là pour être une pub. Maintenant, le problème qu'on a, c'est qu'avec plein de programmes comme Adblock ou des choses comme ça, quand on essaie d'insérer des publicités sur des vidéos ou sur du contenu en ligne, souvent, la publicité, elle se rend pas. Donc, les gens sont pas payés. Et donc, il faut montrer plus de petits chiens pour essayer d'aller chercher l'argent nécessaire pour être capable de créer des emplois et du contenu pour ce journal-là ou ce média-là, dans le fond. Tu sais.
Oui, puis je me demande comment, en fait, si on parle de journalisme en ligne versus journalisme papier, mais qui reste toujours la lecture, mais ce nouveau type de journalisme qui s'insère dans certains talk shows, qui est dans le Daily Show, dans Last Week Tonight avec John Oliver, c'est un nouveau type de journalisme.
Oui, mais lui, il va dire qu'il n'en est pas un, en fait.
Oui,
il va dire qu'il est un comédien, mais il y a une pratique extrêmement journalistique et il y a des vérificateurs de faits dans son équipe qui sont extrêmement rigoureux. Ils font de la recherche, des recherchistes. Puis, je veux dire, moi, je trouve que c'est un exemple de ce que le journalisme devrait être quand même maintenant, même si c'est, en fait, de la satire, tu sais.
Un peu comme Infoman, c'est ça aussi. Mais ça, oui. Qui, dans un autre créneau au Québec, qui n'est pas un late-night show, qui est plus comme un show télé de reportage.
Ben, une forme de l'infodivertissement, parce qu'on peut prendre l'infodivertissement au sens large, puis aller voir après qu'il y a les catégories des late shows, mais il y a d'autres formes comme pourrait être Infoman. C'est quoi la différence? Les limites se brouillent très facilement entre ces différentes formes d'émissions humoristico-politiques.
Ou en tout cas.
Il dit.
Ouais. Mais en même temps, ils vont permettre de poser des questions qu'on peut pas nécessairement faire. En tant que journaliste.
Mais... Oui, tout à fait, mais ils sont pas aussi soumis. Je suis d'accord, en fait, que c'est une forme de journalisme, mais ils sont quand même pas soumis aux mêmes règles. Ils ont pas un code déontologique ou une neutralité journalistique qu'ils doivent suivre.
C'est clair.
Mais probablement que dans cette campagne-ci, par exemple, ben, il y a quand même un travail qu'ils réussissent à faire que les journalistes sont pas capables de faire parce que ils vont être capables, finalement, étant donné qu'ils sont pas liés à la neutralité journalistique, ben, ils peuvent critiquer davantage. Puis on voit avec Trump, ça devient essentiel quand il y a autant de démagogie qui est faite aussi du côté de la politique. Donc, si on parle de journalistes comme chiens de garde de la démocratie...
Mais c'est ça.
Je pense que là, exactement...
Les chiens de garde des journalistes. Un peu dans un sens, oui. Parce que, justement, ils remettent... Ils demandent une reddition de compte aux journalistes qui, eux autres, demandent la reddition de compte aux politiciens, disons, là. Mais oui, ils permettent d'élever le débat, je pense.
Oui, puis je pense qu'ils font pas juste critiquer les journalistes. Des fois, ils vont aussi contourner les journalistes dans la mesure où eux-mêmes vont faire un travail journalistique directement. Là, je pense à John Oliver qui commentait la construction du mur à la frontière entre les États-Unis puis le Mexique. Puis il disait, finalement, que ce que Trump proposait, ça allait coûter deux fois plus cher. Donc, ils ont même pas critiqué les journalistes. Ils sont allés au-delà de ça pour, finalement, faire un travail journalistique de fond, finalement.
Oui. Les spectateurs sont pas niaiseux non plus maintenant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui demandent justement d'aller chercher cette opinion-là des entertainers, particulièrement des late shows. John Oliver, oui, effectivement, il y a un souci journalistique, mais au bout du compte, il donne quand même ce que lui, il pense. T'sais.
Ah oui,
il pousse quand même son agenda, genre... Je sais pas si ça se dit en français, ça. Mais il pousse quand même son opinion, ses idéaux, tu sais. Fait qu'au bout du compte, je pense aussi... Tu sais, on a vu Jimmy Fallon dernièrement. Il a reçu Trump sur son émission, puis il a été bien fin avec, puis tout le monde l'a ramassé pour ça. Parce que justement, il poussait pas des questions difficiles. C'était en surface comme entrevue.
Oui, il a touché ses cheveux. Mais je me demande aussi si le fait que ce soit pas justement de l'infodivertissement, de l'infotainment, si ceux qui prennent ça au sérieux, comme John Oliver, le Daily Show, ne mettent pas la barre plus haute pour justement ne pas se faire ramasser, tu sais, comme tu fais vraiment bien ta job de vérification des faits. pour être sûr, étant donné qu'il y a tout le temps cette... c'est tellement facile de se faire ramasser dans un coin. Ah, mais tu fais juste du divertissement, donc mais ils vraiment top-notch.
Ils n'ont pas le choix parce qu'ils émettent des opinions directes. Puis surtout, avec les auditoires qu'ils ont, ils ont une responsabilité sociale. Fait qu'ils peuvent pas se permettre de dire n'importe quoi. Dans le même sens qu'un journaliste non plus ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi, mais on reste au fait. Surtout dans la campagne républicaine en ce moment, il y a une question de, quand on parle de neutralité, est-ce qu'on donne la même attention aux mensonges que, mettons, on va dire Trump et aux mensonges que va dire Hillary Clinton? Et dans le but, tu veux être objectif, tu veux juste donner la même importance aux deux, mais il y en a qui sont nettement plus graves les uns que les autres. Et c'est ça que je pense aussi les late-night shows vont pouvoir faire plus que les journalistes qui sont un peu perdus avec leur objectivité puis qui se sentent les mains attachées.
Oui, on s'est rendu compte qu'on calcule les mensonges, là.
Oui,
puis,
oui.
En fait, le fait de calculer les mensonges, c'est un super bon point à dire que ben c'est pas parce qu'il y en a un qui en a fait 50 puis l'autre en a fait 25 qu'on peut nécessairement pouvoir les comparer, puis on va beaucoup plus en détail dans les émissions d'infodivertissement, effectivement.
Julie, t'es là pour nous parler du paradoxe des late night shows.
Oui.
Donc, justement, ben, c'est un bon segue parce que,
oui.
En fait, la question, c'est que il y a une espèce de résistance qui peut se créer, une espèce d'invectivation des autorités ou des journalistes, mais en même temps, à cause de l'humour, il y a... Ça crée certains problèmes.
Oui, ça crée des problèmes. Beaucoup d'ambiguïté. En fait, moi, ma réflexion, elle est partie, en fait, d'une discussion que j'ai eue avec quelqu'un qui m'a dit que les late night shows, c'était dangereux.
OK.
Alors, je suis partie...
C'est vrai qu'on se couche tard, hein, puis il faut dormir dans la vie. Bien dormir.
Oui, mais j'avais de la misère un peu à m'imaginer que chaque soir, en tout cas quand j'écoute les late shows, que je m'exposais à de la dangerosité. Alors, je suis partie de ça, puis de ce que la personne me disait, je vais taire son nom pour les biens de cette émission, mais ce qu'elle disait, en fait, c'était que c'était principalement au niveau politique que c'était dangereux, parce que les animateurs semblaient partir en guerre contre des politiciens, là, principalement contre Trump pour ces élections-ci, qui manquaient de rigueur et surtout, en fait, qui polarisaient la société américaine.
OK, oui.
Donc, c'est surtout ce point-là, en fait. Donc, ça m'a interpellée. Je me suis posé la question, mais c'est vrai, en fait, qu'on voit plus d'humoristes ou de late show penchés vers la gauche, hein, critiquer Trump, mais est-ce que vraiment on peut penser que c'est quelque chose de dangereux? Hein, puis la question d'influence politique, elle n'est pas nouvelle, là. Est-ce que les late night shows ont une influence politique? Est-ce qu'ils influencent le vote des électeurs ou la prise de position? Donc, en fait...
Généralement, comment les médias ont une influence aussi?
Oui, de façon plus large, oui, et comment les médias influencent l'actualité politique et dans ce cas-ci, plus particulièrement, les humoristes qui sont à la barre de ces émissions-là. Fait que j'avais le goût, en fait, peut-être de reprendre ton historique un peu, mettre un petit côté politique là-dedans.
Oh, nice! I like it.
Puis de voir, en fait, à partir de là, comment on peut faire apparaître le paradoxe entre, est-ce que finalement, ces émissions-là amènent plus de cynisme politique ou amènent une certaine forme d'engagement. Donc, en fait, je pense que tu l'as bien fait tantôt quand t'as mentionné, en fait, l'historique, là, il y avait beaucoup de détails. Mm-hmm. Ça m'a mis un peu d'ordre aussi dans les idées. Puis souvent, en fait, ce qu'on va penser quand on parle d'infodivertissement, de late show, on va souvent le diviser en trois grandes périodes où, en fait, on aurait au milieu Colbert et Stewart qui ont révolutionné, finalement, la façon de faire les émissions d'infodivertissement. Donc, on a la première partie, là, avant Stewart et Colbert, qui, à partir des années 50-60, là, et où Johnny Carson est le principal, celui qui a popularisé les late shows, là. Donc, c'est pas lui qui l'a inventé, mais depuis 62, là, comme tu le mentionnais, ça a été vraiment lui qui a, disons, popularisé le mélange d'humour, d'information avec le house band, avec le monologue comique, etc.
Et donc, les célébrités, il avait détaillé là-dedans.
Exactement. Mais le type d'humour qui était là était très gentil. Donc, on n'avait pas nécessairement un humour qui était politique, hein. Les politiciens n'étaient pas encore invités dans ces émissions-là. Faut attendre plus, là. Souvent, ce qui est cité, là, c'est dans les années 90 avec le Arsenio Hall et
Bill Clinton. Avec son saxophone, right?
Exactement. Donc, un point.
Un morceau de robot.
c'est ça. Donc, on peut dire qu'il y a comme l'époque des années 60, 70. Puis, la popularité des late shows a vraiment commencé à exploser à partir des années 80, le côté plus politique également, parce que on a créé un nouveau cadre de réception de la politique. Donc, le mariage entre l'information et le divertissement, entre la fiction et le réel. Puis, c'est ce que Umberto Eco va appeler comme la plus importante caractéristique de la programmation télévisuelle. Donc, c'est ce qui a révolutionné finalement la programmation télévisuelle dans les années 80-90, puis ça arrive au même moment où on constate une crise de la démocratie. Donc, manque de confiance dans les institutions politiques dans les années 80, une augmentation de l'absentéisme, hein, donc on va participer de moins en moins, les électeurs vont se rendre de moins en moins aux urnes pour voter. On parle aussi de la primauté de l'individu sur la société, la montée des extrêmes, hein, tout ça mélangé là, avec la chute du mur de Berlin, puis le triomphe, entre guillemets, de la démocratie. Donc
du capitalisme.
Du capitalisme, oui, effectivement, plus peut-être que de la démocratie. Mais bon, ça, c'est une autre question.
Oui, c'est une autre question.
Et donc, tout le monde cherche à capter l'attention. Hein. Les gens sont de moins en moins, ont de moins en moins le goût d'écouter les nouvelles télévisées. Comment on fait pour aller chercher l'attention? Tadam! On va mixer tout ça. On va inviter les politiciens dans les émissions d'infodivertissement. Donc, c'est vraiment à partir de là que je dirais que le genre s'est politisé. Puis, donc, à partir des années, des années 2000, donc, ça culmine là, avec l'idée de Stewart et Colbert.
Mais en même temps, j'ai une question.
Oui.
Mais mettons, reprenons juste un politicien qui est invité au Tonight Show, au Arsenio Hall Show, où il fait juste parler de...
Oui, effectivement.
Jusqu'à quel point... c'est politique. Moi, je pense qu'il y a du politique partout, là, mais, mais jusqu'à quel point... il pousse ses politiques étrangères. Là,
oui, ben, peut-être pas à ce point-là. Puis c'est ça, en fait. Hein, avant, peut-être les années 2000, il y avait cette idée-là qu'on était gentil avec les politiciens. C'était très là, la Johnny Carson. Puis un peu, Jimmy Fallon le fait un peu là, quand on parlait qu'il avait ébouriffé Trump. Ben, c'est un peu dans cette culture-là de les inviter, leur donner du capital de sympathie. Mm-hmm. Je pense que s'il y a un côté politique à voir à la participation des politiciens à cette époque-là, c'est justement d'aller de se montrer comme
humain.
Quelqu'un d'ordinaire, proche du peuple. Donc, le côté politique est peut-être plus là, à ce niveau-là. Mais c'est à partir des années 2000, vraiment, là, avec Stewart et Colbert, qu'on va donner un sens plus politique. Oui. On va s'investir dans les campagnes électorales.
Mais c'est plus de l'analyse.
Oui, de l'analyse, de la satire politique. Les politiciens sont invités quand même. Hein. Obama, je pense qu'il est allé 7 fois à Stewart.
Ah oh, oui?
Donc,
mais il devait être rendu chum.
Oui, bien rendu là. Ouais,
je pense que Seth Meyer arrête pas de dire qu'il va s'ennuyer d'Obama.
Ouais. Mais c'est vrai qu'il a été, ça a été le chouchou des émissions de fin de soirée. D'ailleurs, il avait été aussi à, c'est pas une émission de fin de soirée là, mais Comedians in Car Getting Coffee.
Oui, avec Seinfeld.
Avec Seinfeld. Mm-hmm. En fait, j'attire votre attention sur le titre là, Comedians in Car Getting Coffee. Puis t'as le président américain qui va là, qui est le seul. J'ai épluché la liste des invités. C'est le seul invité qui est pas du milieu de l'humour. Là. Okay. Donc, soit qu'il soit humoriste ou disons qu'il travaille sur un show d'humour, etc. Donc, ça n'en dit quand même long sur le mélange des genres qu'on l'invite puis qu'on dise ben le président est un humoriste
il a essayé de se justifier par exemple Seinfeld au début de l'émission il présente en fait les speeches dans certains soupers du président justement où est-ce qu'il commence à faire des pics sur tout le monde où est-ce qu'il commence à faire rire les gens. C'est quand même un président qui a un bon sens de l'humour je pense.
Oui.
Mais de là à dire que c'est un humoriste, ça c'est sûr que non.
Il joue vraiment bien la game des médias.
Ah, vraiment.
Obama, vraiment bien. C'est pas Nixon là.
Ouais.
Mais il aurait peut-être été capable de monter un one man show.
Sûrement. Je pense que si
peut-être que ça s'en vient. Hein,
peut-être. Ouais, qui sait.
C'est 500 000 $. Il va bientôt avoir plus de job.
Donc voilà, donc eux vont révolutionner. Puis là, en fait, c'est la première élection qu'on a où il y a un vide important.
2000.
Cette élection-ci, on a fait un saut jusqu'en 2016.
Faisons le saut, parfait.
Donc c'est la première fois qu'il y a un vide, en fait, qu'on n'a pas Stewart et Colbert depuis les années 2000. Donc ça, c'est la première élection en 15 ans. Les Américains étaient très tristes. En fait, qu'est-ce qui allait se passer? Mais finalement, en fait, on arrive à une époque qui est peut-être encore plus incisive politiquement, où les humoristes sont encore plus politisés. Là, on mentionnait tantôt Samantha Bee, par exemple, John Oliver avec Last Week Tonight, Seth Meyer, Trevor Noah. Donc, je pense qu'ils ont quand même ce côté-là qui est encore plus politisé. Peut-être que c'est à cause de la candidature de Trump qui est un peu humoristique en soi. Peut-être que ça l'amène avantage à être plus, avoir un humour plus direct.
Encore plus corsé, oui.
Plus corsé. Mm-hmm. On peut être aussi à la distance politique. Là, on parlait, John Oliver était britannique, mais Trevor Noah est sud-africain, Samantha Bee est canadienne. Donc, peut-être cette distance-là leur permet justement de critiquer politiquement davantage. En tout cas, il y aurait probablement plusieurs raisons, mais on a donc cette omniprésence là encore plus fort puis encore plus politisé, plus tranché en ce moment des émissions d'infodivertissement qui prennent position politiquement. Donc,
est-ce que ça pourrait venir d'une frustration?
Ben oui, d'une frustration, puis peut-être aussi de c'est les deux candidats les plus impopulaires de l'histoire en fait de la politique américaine. Donc c'est la première fois depuis qu'on fait des sondages sur la popularité des candidats qu'on voit qu'on a les deux candidats détestés par tout le monde. Donc peut-être que ça vient de là un peu, peut-être ce côté-là encore plus direct, encore plus impliqué politiquement.
Il y a le niveau du débat aussi là qui est quand même assez bas. Ça fait que l'humour
aussi
peut être plus acerbe.
Mais des fois c'est encore plus compliqué de faire une blague avec une blague. Tu sais, dans le fond les candidats sont quasiment drôles en soi. La politique est tellement à mourir de rire déjà juste par elle-même que ça devient difficile d'en faire une caricature. Hein. Mm-hmm. Quoique à SNL on l'a vu là, il y avait eu la prestation
d'Alec Baldwin.
D'Alec Baldwin.
Moi ça faisait un an que j'attendais ça. Je suis extrêmement heureuse. Ils ont une espèce de bout de nouvelles à SNL où ils ont... Ça, c'était samedi soir, donc. Puis pour le tape qui a été fui par Washington Post du vendredi où ils revenaient là-dessus. Puis cette semaine, lundi même, dès lundi, mardi, il y avait une espèce de remix du débat où on voyait Donald Trump et Hillary Clinton chanter « I've had the time of my life ».
Ah oui!
C'est très, très bon. Donc, il y a moyen de faire de l'humour, mais pas nécessairement... Là, je déborde un peu des late-night shows, mais...
Oui. Alors.
Mais t'arrives à la question.
Donc, ben là, j'arrive à la question. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? est-ce qu'en fait, ça nous amène à avoir du cynisme politique ou ça nous amène à nous engager politiquement? En fait, j'aurais envie de répondre,
un peu des deux?
Ouais, c'est ça. C'est plate, hein. Mais souvent, en sciences sociales, on est pris avec, avec cette réponse-là. Oui, oui, non, non. Donc, je vais vous faire une réponse. Oui, oui, non, non. Parce que je vais vous donner un peu peut-être ceux qui disent, là, qui pensent vers un cynisme politique, hein. Ben, ils disent qu'on prêche pour les convertis. C'est un faux sentiment d'activisme. Quand on écoute ça, finalement, ça l'amène... C'est un peu comme Freud le disait quand il parlait d'humour. Ça fait un baume sur nos mots. C'est-à-dire qu'on en vient finalement à peut-être passer à autre chose parce que l'humour nous amène à apaiser nos tensions intérieures par rapport à ça. Certains vont dire que ça donne du capital de sympathie face aux politiciens. Donc, il y en a d'autres qui vont dire que c'est une forme de publicité polie.
Oui,
hein,
oui, oui.
Donc, on en vient...
Parlez-en bien, parlez-en mal, l'important, c'est qu'on en parle.
Exactement. Puis, tu sais, on a mentionné Trump à Jimmy Fallon, mais on pourrait aussi reparler de Trump à SNL au printemps dernier, quand il a fait sa caricature de Hotline Bling de Drake. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est fantastique. Mais SNL a été critiqué parce que finalement, ça l'a amené dans les meilleures cotes d'écoute.
Ouais.
Mais ça le rendait sympathique de se prêter au jeu de refaire le vidéoclip de Drake. Donc, ça l'amène finalement peut-être à se distancier de la politique. Puis ça nous rend cynique parce que finalement, on sait où les animateurs se positionnent. On sait qu'ils sont plus à gauche, on sait qu'ils sont favorables aux démocrates, se cachent beaucoup moins de leur position. Bon, il y a quelques exceptions là quand même. Il y a des humoristes, peut-être moins en late show, mais des humoristes conservateurs, ça existe.
Oui, moi, c'est ça la question que je me pose.
J'ai des exemples.
Ben oui, j'ai des exemples. En fait, il y a le Color Comedy Tour qui, avec entre autres Larry the Cable Guy, puis Jeff Foxworthy, Dennis Miller aussi. Puis il y avait une émission qui a duré vraiment pas longtemps, un peu à la manière d'Infoman là, à Fox en 2007 qui s'appelait This Half Hour News Hour, qui était... Okay. Ça a vraiment pas duré longtemps, mais c'était quand même un humour plus conservateur. Hein, peut-être... Mais pourquoi il y a moins de conservateurs? C'est peut-être...
Ça faudrait une étude sociologique.
Trop au sérieux?
Il faudrait une étude sociologique, je pense.
Ben, il y a peut-être une partie de la réponse qui est de dire que finalement, les conservateurs vont moins vers le milieu des arts, d'une part, puis peut-être aussi qu'ils aiment pas les idées floues. Puis en humour, ben ça l'amène tellement d'ambiguïté qu'on aime plus l'ambiguïté, donc c'est peut-être plus associé à la gauche, mais une étude sociologique, peut-être, ça serait...
Un des dénominateurs communs dans les humoristes que tu viens d'énumérer, c'est clairement tous qui viennent du Sud, par exemple. Pour pas les appeler des rednecks, mais c'est eux-mêmes dans leur show d'humour, c'est ce qu'ils disent. Ouais,
okay,
c'est du redneck humor qu'ils font.
Oui, mais il y a des humoristes qui viennent du Sud quand même, qui font de l'humour.
Moi, je me pose la question, je sais pas si... vous avez la réponse, mais je sais que les late night shows attirent beaucoup d'auditeurs et particulièrement aussi avec toutes les reprises, les sketchs qu'on peut voir sur YouTube, donc aussi en ligne. Mais je me pose la question jusqu'à quel point ils attirent des gens de gauche aussi. Donc jusqu'à quel point ça devient une chambre d'écho ou non? Parce que si c'est de plus en plus polarisé, on pourrait croire que les gens plus conservateurs, les républicains, n'écoutent pas ces émissions-là, mais en même temps...
Ben, je pense que c'est justement là que réside un des dangers. Quand tu parlais tantôt du baume, c'est aussi un peu la confirmation. On va confirmer ses idées quand on est déjà, mettons, de gauche. Justement, on va pas voir ailleurs, on va pas s'informer ailleurs d'autres choses. On est plus polarisé, ancré sur notre façon de penser qui va être nourri en plus par ce qu'on va voir justement dans les late night shows, plus de gauche. Disons, si on est de gauche.
Mais ouais, tout à fait, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Il y a un contre-exemple à ça, c'est, je sais pas si vous vous rappelez du Rally to Restore Sanity and or Fear.
Non.
donc qu'on peut traduire par le rassemblement pour rétablir la santé mentale et ou la peur, qui avait été organisé en fait par Stewart P. Colbert en 2010. Alors je vous rappelle le où on est, là on est en plein mouvement Tea Party aux États-Unis, puis c'était comment il s'appelle déjà, Glenn Beck, qui avait organisé une manifestation à Washington qui, elle, est intitulée Restoring Honor. Puis, en fait, c'était pour dire, finalement, à tous les Américains, plus à droite, on va revenir aux valeurs américaines. Puis, on est, justement, le Tea Party était en pleine effervescence. Puis, Stewart et Colbert avaient réussi à faire leur rallye pour faire un peu de l'ombre à Glenn Beck. Et ils avaient réussi à réunir à Washington 215 000 personnes durant la campagne de mi-mandat en 2012. Puis, leur objectif, c'était de dire, OK, on va arrêter de dénoncer les propos plus extrémistes aux États-Unis, puis on va arrêter, pardon, de prendre ou d'avoir des propos plus extrémistes, on va les dénoncer, puis on va, en fait, prendre le restant des Américains qui comptent peut-être pour 80%, 90% des Américains qui veulent un débat plus posé, qui veulent retourner finalement à une discussion qui est plus raisonnée, qui accepte la différence. Donc, quand même, réussir à réunir 215 000 personnes, oui, on peut rester sur notre divan, mais ça arrive quand même que on peut aussi prendre la rue puis aller ensemble se rassembler à Washington. Ce qui, ça a eu des vrais impacts.
Oui, regardez la
là. Mais le Tea Party, on en entend presque plus parler.
Non, ça,
aussi.
C'est vrai. Oui.
Donc, je veux pas dire que c'est grâce.
le débat est tellement rendu élevé, moi, que...
Mais c'est pour ça que c'est un paradoxe, en fait.
J'ai besoin d'une bonbonne d'oxygène.
Mais à partir de ce moment-là, est-ce que les animateurs de Late Night Show ne deviennent pas en eux-mêmes des acteurs politiques?
Ben oui, tout à fait.
Fait que là,
ben oui, moi je pense que tous les humoristes de ce monde sont des acteurs politiques de parce qu'ils ont ils prennent le micro puis ils peuvent parler finalement au nom d'un groupe, peuvent critiquer, valoriser certaines prises de position effectivement. Puis donc là peut-être l'autre point, ça l'amène une certaine forme de résistance politique qui est le côté paradoxal, peut-être à l'opposé du cynisme, ça permet une critique sociale. Puis là je reviens à l'époque où je sais pas si vous avez lu au Cégep Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. En tout cas
moi c'est au cinquième secondaire.
Okay. Ben, ouais, moi aussi, j'ai eu au secondaire.
Mais vous vous rappellerez dans ce livre-là, en fait, où on essaie de créer une société stable, heureuse, sans liberté, ben, il n'y a pas d'humour. À aucun moment dans le livre, on a une dose d'humour. Donc, peut-être que le livre d'Aldous Huxley nous amène quelque chose ou, en tout cas, nous renseigne sur cette possibilité-là, en fait, que l'humour aurait amènerait une certaine forme de liberté, de critique sociale, qui donne finalement plus d'espace à être en désaccord par rapport à certaines idées. Donc, si Huxley écarte le rire, c'est peut-être dire, donc, que l'humour nous amène à critiquer la société, à exprimer des choses qui pourraient d'ordinaire être dévoilées, par exemple. Donc, ça serait le penchant peut-être du cynisme politique. Mm-hmm. Donc, les late night shows pourraient avoir une certaine influence, comme on l'a mentionné tantôt, peuvent informer, peut-être que c'est là davantage où se situe leur influence, c'est-à-dire qu'ils peuvent informer les Américains ou tous ceux qui regardent ces émissions-là sur la politique. Puis, à partir de là...
Et la politique aussi, des fois.
Oui.
Parmi les dernières interventions de Jon Stewart... c'était à l'été 2014 où il y avait la violence contre les Afro-Américains était très élevée. Il y a un massacre dans une église là par un failé total. Puis c'était d'excellentes réponses là. Puis il se posait vraiment comme un allié finalement. Puis il disait comme hey, est-ce que vous vous rendez compte là qu'il y a du racisme systémique aux États-Unis? Est-ce qu'on peut s'ouvrir les yeux?
Mm-hmm.
Puis on voyait comme qu'il était complètement désemparé. C'était plus drôle là, mais ça fait réaliser la gravité de ce phénomène-là aussi.
Oui, tout à fait. Prise de conscience, déconstruire certains discours aussi qui ont été faits en montrant des extraits vidéo qui s'opposent ou ça peut être fait. Mais c'est surtout aussi une nouvelle porte d'entrée vers d'autres nouvelles. Des fois, c'est en fait l'étincelle qui va allumer le feu de l'information, en tout cas, qui peut amener à regarder d'autres des bulletins de nouvelles, etc. Voilà, en fait.
Très bon tour. Julie. Très bon tour d'horizon. On va terminer avec une chronique, avec un sujet plus léger.
Tellement. On a tellement parlé de choses importantes, j'ai l'impression que ma chronique...
C'est pour ça, moi, c'est volontaire dans le timing.
Sur une bonne note.
Donc, on va parler des jeux, de l'aspect ludique dans les late night shows.
Oui, exact. Mais en fait, moi, mes parents, ils venaient de la pensée d'école, où est-ce que... Tant que t'avais
l'école
bonnes...
de pensée.
L'école de pensée, excusez. Voilà. Tant que t'avais des bonnes notes, tu peux te coucher à l'heure que tu voulais. Fait que moi...
Pas mes parents!
Depuis que j'ai comme...
Moi, c'était après 13-14
ans, j'écoute les late night TV shows, puis je pense que j'ai une culture générale excellente aujourd'hui, particulièrement à cause de ça, parce que tu vois tellement de choses, que ce soit des nouvelles ou des jeux ou des célébrités ou...
Moi, c'est les Simpsons. C'est à cause des Simpsons.
Hein. Bref, je regardais dernièrement... vu que je regarde ça tout le temps, je vois dernièrement une grosse montée des vidéos sur YouTube des gens qui font du Late Night TV Show. Mm-hmm. Particulièrement Jimmy Fallon, qui lui compte à peu près... 45 jeux récurrents sur son émission en une année.
Puis ils sont tous, tous les sketchs sont disponibles, effectivement.
Ouais, c'est ça. Puis en fait, on voit aussi que je suis allé même faire de la recherche sur les codes d'écoute, puis on voit qu'il y a un impact assez majeur aussi sur les codes d'écoute du fait d'intégrer, en fait, les médias sociaux dans la création de l'émission, puis de jouer avec tout ça. En fait, juste rapidement comme ça, si on regarde les subscribers sur YouTube, on pourrait dire que Fallon a 12 millions de personnes qui suivent son émission sur YouTube, suivi de près par Jimmy Kimmel, qui en a 8,5 millions, qui, lui, est suivi aussi de près par quelqu'un qu'on n'a même pas nommé encore aujourd'hui, qui est James Corden.
Qui est le Britannique,
qui est en fait...
Star montante des Late Night Show.
Exact.
C'est un autre 38.
Que lui, il a 7,7 millions. Puis en fait, ce qui est intéressant, puis ça revient peut-être même parler de... On peut peut-être trouver une dimension dans ce qu'on parlait tantôt. John Oliver a seulement 4 millions de personnes qui le suivent sur YouTube. Stephen Colbert, 1,6 million. Et Seth Meyers, 680 000 personnes. C'est vraiment beaucoup moins, en fait, là, que les autres. Pourquoi, tu sais? Je pense qu'en ce moment, vu que la dimension politique est en plein vol, les gens comme Stephen Colbert, puis Seth Meyers, puis John Oliver, qui, eux, ont un late-night TV show qui est beaucoup plus politiquement actif, eux ont une cote d'écoute qui est un peu meilleure dernièrement. Mais en général, on va chercher beaucoup plus d'entertainment avec un Jimmy Fallon ou un Jimmy Kimmel qui, eux, vont faire plein de niaiseries, avoir plein de séries. voir des vidéos super justement farfelues. Donc, juste comme ça aussi, j'ai fait comme rapidement une petite recherche pour voir c'est quoi les vidéos les plus populaires sur chaque personne. Puis justement, une fois de plus, Corden revient avec la vidéo le plus vue de toutes les late-night
TV shows. Est-ce que je peux essayer de faire une devinette?
Vas-y.
Je pense que c'est le Carpool Karaoke avec Adele.
Un autre morceau de robot.
Yes!
Avec le Carpool Karaoke, en fait, c'est incroyable. Ce petit skit-là, ce petit jeu-là, on peut dire, avec les célébrités qui rentre dans le fond, le jeu, c'est il fait semblant qu'il est en train de faire du covoiturage, puis la personne qui vient l'aider à faire du covoiturage, c'est évidemment
des
célébrités qui savent chanter vraiment bien. Fait que celui-là avec Adele, par exemple, t'as allé chercher 120 millions de views. Fait que c'est vraiment significativement au-dessus de la deuxième place, qui est Jimmy Fallon, qui lui, c'est le Lip Sync Battle avec Emma Stone.
Ah oui, Lip Sync Battle, très bon d'ailleurs.
C'est excellent.
Je l'ai revu plusieurs fois parce qu'il est vraiment drôle.
Le principe de Lip Sync Battle, c'est essentiellement Jimmy Fallon invite deux autres célébrités et ils choisissent chacun les chansons sur lesquelles ils doivent faire semblant de chanter avec toute l'émotion qu'ils peuvent mettre en arrière du micro.
Ça a donné lieu à une émission?
Absolument.
Et ça a donné lieu à une émission québécoise aussi.
Voilà. On voit que la portée de justement ce jeu-là qu'ils ont créé va très, très loin. Tu sais.
Alors que tout a parti au Club des 100 watts, mais ça...
Fait que je me suis posé la question, comment est-ce qu'en fait le jeu et le jeu avec les célébrités en particulier dans les late night TV shows vient en fait rehausser les codes d'écoute, vient chercher les gens autant. Puis je pense que dernièrement, ce qu'on peut voir, c'est une intégration des médias sociaux dans les jeux que les animateurs utilisent dans leur late night TV show. Par
donc,
exemple.
Donc, une certaine dose d'interactivité.
Il y a, exactement. On va chercher, en fait, du contenu chez les gens sur Twitter, par exemple, surtout, en fait. Là. Jimmy Fallon, par exemple, il y a une chronique qui a peut-être à tous les deux jours qui s'appelle Hashtags. Où est-ce que la journée d'avant, sur Twitter, ils ont envoyé un hashtag, puis là, ça peut être n'importe quoi, là, comme My Worst Breakup ou quelque chose comme ça. Puis là, ils vont chercher les tweets les plus drôles en 140 caractères, puis là, ils vont en énumérer une douzaine, en fait, sur le air. Mais là, juste ça, ça fait que si on regarde sur Twitter en ce moment, Fallon a de loin le plus de gens sur Twitter, avec 43 millions de personnes qui le suivent lui personnellement, puis 12 millions qui suivent l'émission. Fait que juste avec ça, on voit clairement que comme intégrer les médias sociaux, vient justement chercher un engagement chez...
Oui, parce que là, on veut écrire, puis on veut que notre tweet soit
publié, c'est ça,
j'imagine qu'il y en a des millions de tweets, puis en choisissent une douzaine, peut-être, fait que la compétition devient forte.
Ce qui est particulièrement drôle avec Fallon, en plus, c'est que sa popularité est surtout venue du fait que quand il était sur SNL, c'était le gars qui riait sur ses sketchs.
Oui,
on peut se rappeler du Blue Oyster Cult avec I Need More Cowbell, puis tout ce qu'il fait dans le sketch, c'est être en arrière en train de rire dans le fond tout le long, tu sais. Mais juste ça, c'est drôle. Fait que là, ce qui arrive souvent, c'est quand lui est en train de lire les tweets, je pense pas qu'il les voit nécessairement d'avance, parce qu'il a l'air de flipper des cartes et de les lire live. Fait que lui, il commence à cramper devant, ce qui fait cramper un peu tout le monde aussi en même temps. Ça fait qu'il y a comme un fun
de petit gars,
avec
un
fun de petit gars, justement.
Il n'y a pas un épisode où il était avec... Ah mon Dieu, je ne me rappelle plus de son nom. Le gars dans le film de...
L'acteur dans le film...
American Hustle.
Bradley Cooper.
Oui,
mais il a fait du air guitar, Bradley Cooper.
Mais les deux mettent une perruque, ils partent de fou rire et ils n'arrêtent pas pendant...
10 minutes à peu près, la vidéo est écœurant. Mais voilà, tu sais, puis on voit clairement qu'il y a un fun intégré, puis ça revient à ce que je voulais parler dans deux petites minutes, en fait, là, mais l'autre exemple que je voulais montrer aussi de l'intégration des médias sociaux, c'est Jimmy Kimmel, qui lui aussi, ses vidéos de loin les plus vues, c'est une chronique qui s'appelle Celebrities Read Mean Tweets.
Oui, tout à fait.
Où est-ce qu'il invite des célébrités, puis il fait des vidéos à peu près d'une dizaine de minutes, où est-ce que les gens font juste lire des tweets vraiment méchants sur eux.
À leur propos.
Puis souvent, ben, soit ils s'insurgent, soit ils rient, soit ils savent pas comment réagir, ils rougissent, des choses comme ça, mais ça fait des trucs vraiment drôles aussi. Fait que voilà. Fait que là, bon, OK, ça encourage pas les gens à aller sur Twitter.
Jimmy Kimmel aussi, il demande aux parents souvent de faire de jouer des mauvais tours à leurs enfants, de filmer et d'envoyer, comme le classique, c'est demander aux parents à l'Halloween de dire à leurs enfants, j'ai tout mangé des bonbons.
Ouais.
Puis le voir, puis le filmer la réaction de l'enfant, puis là, c'est envoyé à Jimmy Kimmel qui prend les meilleurs et c'est hilarant à chaque fois. Donc, c'est sûr que les vidéos, c'est un peu plus élaboré que juste des tweets, mais il y a comme une participation des personnes qui sont même pas seulement dans l'auditoire, là,
de n'importe qui, maintenant. Oui. C'est super comme ça. On voyait jamais vraiment ça avec David Letterman ou Leno dans ce temps-là, ces gens-là.
Non, certainement pas. Il n'y avait pas le moyen technologique.
Mais c'est comme tout nouveau, l'avènement de, en fait, la démocratisation de ces outils-là, comme YouTube, des choses comme ça. Fait que maintenant, on peut avoir un lien avec quelqu'un qui est comme très célèbre, assez facilement, tu sais. Fait que voilà. Fait que là, si je prends mon chapeau de game designer, rapidement, on pense toujours à deux choses, en fait, quand on design un jeu de manière très haut niveau. On pense, c'est quoi nos forces à nous en train de faire le jeu? C'est qui va jouer au jeu? C'est les deux choses qu'on se pose comme question au début. Puis là, ici, on peut clairement dire que chaque animateur a leur bagage qui fait que certaines choses fonctionnent vraiment bien et que d'autres non. Par exemple, Corden, lui, il faisait du théâtre, des musicaux, toute sa vie, tu sais, c'est un chanteur, c'est un acteur, et donc faire des trucs comme Carpool Karaoke, ça fait sens. Ils ont créé cette chronique-là parce qu'ils savaient que cet animateur-là pouvait livrer la marchandise aussi, tu sais. Pour Fallon, c'est un animateur, mais c'est aussi un bon acteur sketch impro, là. Fait que ce qui fait que lui, c'est peut-être pour ça qu'il y a 45 jeux récurrents sur son émission, c'est qu'il, dans n'importe quelle situation, il va être capable de jazzer quelque chose, puis de toute façon, si lui commence à rire, tout le monde commence à rire. mais là, ce qui arrive aussi, c'est que maintenant, puis ça, c'est aussi vrai dans le design de jeux vidéo, qui est mon emploi, c'est... Maintenant, il faut penser aussi à intégrer le spectateur dans notre design initial, parce que avec l'avènement des trucs comme Twitch, comme YouTube, des choses comme ça, maintenant, quand les gens jouent à des jeux, il y a des gens qui regardent des gens jouer à des jeux, puis ça, c'est rendu un véhicule important pour populariser un produit. Fait que là, maintenant, des trucs comme, par exemple, Celebrity Reads Mean Tweets, ça intègre et spectateurs, et l'animateur, et les joueurs eux-mêmes. Donc voilà. Fait que Fallon, il est très populaire en ce moment pour plusieurs raisons, notamment parce que il a gamifié son contenu avec ses cellulités, puis il utilise activement la communauté internet pour trouver du contenu dans son émission. Puis les jeux, dans les jeux qu'utilise Fallon, qui sont les plus populaires, c'est souvent des jeux avec des éléments physiques. Je vais vous expliquer trois jeux particulièrement que Fallon utilise qui me font toujours rire. Il y en a un qui s'appelle Water War, où est-ce que lui et une célébrité vont se mettre dans une piscine pour enfants avec une table au milieu, puis ils vont jouer à la bataille.
OK.
Puis à chaque fois que quelqu'un perd, il se fait verser un pichet d'eau dessus.
OK.
Mais ce qui arrive, c'est souvent, c'est genre...
La bataille aux cartes, là.
La bataille aux cartes. Il joue à la bataille... ouais, exact.
La chose la plus simple au monde.
Ouais, exact. Puis là, il se verse des pichets d'eau sur chacun. Okay. Puis là, à la fin, la personne qui a comme plus de pichets d'eau devant lui, ben, il sort un gun... à pression super soaker intense pression, là, ouais, ouais. Puis après ça il s'y donne pendant la minute qu'il cible sur la personne qui a perdu. Fait que ça c'est un des jeux, puis juste ça je pense que ça humanise beaucoup les célébrités qui viennent,
oui.
Parce qu'on voit que eux sont capables d'avoir du fun avec très peu de choses, sont capables de eux se ridiculiser eux-mêmes. Puis avec Jimmy Fallon qui ricane tout le long, c'est sûr que du fun garanti. Un autre jeu qui fonctionne vraiment bien, ça s'appelle Slapjack. Où est-ce qu'il joue au blackjack. Puis la personne qui perd, elle se fait donner une claque avec un gros gant,
okay.
Un grand mousse. Et encore une fois, on va chercher les mêmes choses, un humour physique. Puis le dernier, qui c'est mon préféré, s'appelle Egg Russian Roulette. Puis ça, c'est où est-ce qu'il y a une douzaine d'œufs, comme vraiment dans la boîte en styromousse.
Encore,
puis il flippe sur les 12 œufs qui sont dans la douzaine. Il y en a 4 qui sont des œufs à coque dure.
Okay.
Les autres sont crus. Puis là, ils prennent chacun leur tour, eux-mêmes prennent un œuf et se le cassent sur la tête.
OK, une chance sur trois, donc.
Ouais. Une chance sur trois.
De tomber sur un œuf cru, donc tout dégoulinant.
Oui, exact. Et donc, en fait, non, t'as une chance sur trois de tomber sur un œuf qui est correct.
Oui, c'est ça. Oui, deux chances sur trois d'avoir
le
leg.
Puis c'est ça, le premier qui en mange deux sur la tête, okay. Père. Là. Fait que voilà. Je pense que voir les célébrités jouer à des jeux vient aussi baisser leur barrière naturelle aux interviews. Ils sont plus aptes à dire la vérité, à montrer leurs vraies émotions parce qu'ils sont dans un espace ludique, ils sont confortables. Soudainement, tu sais, ils se parlent, mettons, de politique ou de choses comme ça, puis la réponse qui va venir, elle va peut-être être moins gardée, elle va peut-être être moins...
Oui, parce que ça force la spontanéité, générée, en fait.
À 100%. Fait que voilà, c'était essentiellement les éléments que je voulais faire sortir quand on regarde maintenant avec l'avènement de YouTube et tout ça, puis les Late Night TV Show, c'est quand même incroyable de voir à quel point le nombre de vues est en train d'avoir un impact immense sur les codes d'écoute des Late Night TV Show.
Oui, absolument, puis c'est une super bonne preuve, là, en fait, que la ludification, là, l'aspect jeu qui est intégré vraiment fait augmenter l'impact culturel d'une certaine émission comme le Tonight Show with Jimmy Fallon.
100%.
Donc, je vais conclure. Nous allons conclure là-dessus. J'ai quelques annonces à faire. On a maintenant, au Pop en Stock, un Patreon, donc du socio-financement. C'est pas pour nous, ça va être pour redonner à la communauté geek. Donc, à chaque mois, on essaie de ramasser 100$ qu'on va donner à un artiste qui va nous faire une bannière, un jingle ou encore un casse-tête, un t-shirt. Whatever. Donc, pour donner au Patreon, vous allez sur la page Facebook de Pop en Stock et ensuite vous suivez les liens pour le Patreon et c'est assez simple. Moi-même, j'ai donné de l'argent à ma propre émission. Donc, je garantis que c'est simple. Vous pouvez vous inscrire au podcast Pop en Stock par votre moyen d'écoute de Pop en Stock et si vous avez comme à iTunes, par exemple, et si vous le voulez, si vous nous trouvez bon, vous pouvez apprécier le podcast, donner 5 étoiles, s'il vous plaît. C'est comme ça qu'on se fait connaître auprès de gens qui nous connaissent pas encore. Et donc, finalement, il est 56, moi je dois vous quitter, donc je vous dis au revoir et à la prochaine.
Au revoir.
Certaines émissions comme le Show with Fallon, Jimmy Fallon.
Ça va, ça.
Donc, là-dessus, quelques années, on a maintenant en stock un du socio-finant. C'est pas pour ça, va être donné à la communauté semaine à chaque de vraiment 100$ on va donner ce qui.